France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous, nouvel épisode ce matin de Fabrication Maison, qui commence avec un rendez-vous avec le neuropsychologue Hervé Platel, qui évoquera la conférence qui se tiendra le 4 juin autour de musique et cerveau. Dans son reportage, Vinciane Lemonnier est allée à la rencontre des musiciens qui forment l'Orchestre des Amateurs, initié par l'Orchestre National de France, Viva l'Orchestra. Quant à Marie Fauché, c'est aux musiciens de ce même orchestre qu'elle a demandé de dresser un portrait de leur directeur musical, Daniele Gatti, qui dit adieu à la maison de la radio. Puis nous retrouverons de fabuleuses archives de Jean-Yves Pad, venu tout droit du Japon, une lettre de l'un d'entre vous dans Parlez-moi de musique, et enfin, un genre musical célébré par Sophie Janin. Vous êtes tout oui, j'espère.
France Musique.
Bonjour Hervé Platel.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur de neuropsychologie à l'université de Caen. On vous a entendu déjà un peu évoquer cette série de conférences samedi dernier dans l'émission, dans le reportage. Et je voulais aujourd'hui, ça m'intéressait d'avoir votre portrait finalement. Un portrait qui est assez lié, je le crois, à l'objet de cette conférence qui va avoir lieu le 4 juin et dont le thème est finalement la créativité.
Tout à fait. En fait, c'est un portrait illustratif de mes intérêts de scientifique.
Voilà, plus qu'un portrait.
Donc, sur le moment donné.
Subjectif de vos goûts personnels complets en musique. Alors, vous avez commencé votre premier choix, c'était tout à fait au cœur de la conférence qui va avoir lieu, puisque vous recevrez à la fois Philippe Manoury et Jean-Pierre Changeux, qui ont à deux écrit un livre sur Pierre Boulez. Donc, nous écoutons Pierre Boulez tout de suite, une pièce qui s'appelle « Anthème 2 ».
Thank you.
Nous écoutions un extrait d'Antenne 2 dans l'interprétation au violon de Diego Tosi. C'est donc Antenne 2 de Pierre Boulez. Pierre Boulez qui va être peut-être un petit peu au cœur de cette première conférence, Hervé Platel.
Oui, tout à fait. Alors, Pierre Boulez, effectivement, si tout le monde connaît son nom, je dirais beaucoup moins de personnes ont écouté forcément ses œuvres. Et je trouve que c'était intéressant d'écouter cet extrait. En définitive, on pense souvent que cette musique est austère et pas très accessible.
Eh bien, vous voulez justement, je voulais vous le demander ça. Pourquoi est-ce que les gens disent ne pas aimer la musique d'aujourd'hui? Est-ce que le scientifique que vous êtes peut y répondre?
Je pense que c'est un manque effectivement aussi donc d'exposition, mais de manière amusante, on s'aperçoit que les nouvelles générations d'auditeurs, alors pourtant qui n'ont pas forcément de culture dans le domaine de la musique contemporaine, sont des générations qui sont malgré tout naturellement plus sensibles à ces musiques qui ne suivent pas forcément, je dirais, l'harmonie conventionnelle ou basique. Pourquoi ils le sont plus sensibles ? Parce que en définitive, en tant qu'auditeur tout venant, eh bien on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est de plus en plus baigné dans notre environnement musical et en particulier dans la culture cinématographique par une musique qui suit de plus en plus ses codes nouveaux de la musique et de la composition contemporaine. Quand vous allez au cinéma, vous entendez sans vous en rendre compte des musiques dont les compositeurs d'aujourd'hui, que ce soit Howard Shore, que ce soit même John Williams qui pourtant est un grand adepte de la musique tonale, mais en fait ces compositeurs de musique de films, ils vont de temps en temps prendre aussi les substrats et les modes en fin de compte de la musique contemporaine. Et donc, de ce point de vue-là, on va dire que les nouvelles générations ont une oreille déjà un petit peu plus habituée, ce qui fait que, en définitive, c'est pas si inabordable que ça. Et si on se laisse un peu porter, on s'aperçoit qu'on peut tout à fait, sans connaître l'œuvre, éprouver tout de suite une émotion intéressante.
Oui, et puis Hervé Platel, il y a cette question de la mémoire que vous évoquiez dans l'émotion, puisque quand même l'émotion musicale est très très liée à une mémoire qu'on en a. Alors je vous propose, avant d'aborder cette question de la mémoire, d'écouter votre deuxième choix musical, qui est donc un extrait d'une œuvre de Philippe Manoury, In Harmonie.
Thank you.
Alors, c'est l'ensemble Accentus qui était l'interprète de cette pièce de Philippe Manoury, Une harmonie, pour poursuivre sur ce sujet de la perception qu'ont nos contemporains de la musique qui s'écrit à leur époque. On était resté sur la question de la mémoire. Est-ce que ça vous semble pertinent, Hervé Platel ?
Ah oui, complètement. Et cette mémoire, elle joue à la fois dans l'empathie esthétique, c'est-à-dire notre capacité à ressentir immédiatement une émotion sur une œuvre d'art, une œuvre culturelle et la musique, alors même qu'on ne connaît pas potentiellement cette musique. Il y a des études donc de neurosciences récentes qui ont montré effectivement comment on pouvait ressentir du plaisir, comment notre cerveau, on va dire du plaisir, notre cerveau de la récompense pouvait s'allumer à partir du moment où, en écoutant une œuvre qui nous est totalement inconnue, on commence en fin de compte à entrevoir des aspects qui nous intéressent. Mais pour entrevoir des aspects qui nous intéressent, eh bien, il faut quand même avoir un petit peu de culture musicale. Mmh. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre toujours que le plaisir de la musique, il est quand même largement construit sur une éducation. Que la capacité à pouvoir être créatif dans un domaine artistique s'appuie aussi sur une éducation artistique. Et Pierre Boulez considérait, lui, que d'ailleurs, pour être créateur, bah, il fallait partir effectivement de ce qu'on savait, que ça partait pas de nulle part. Et en tant que neuroscientifique, je suis assez d'accord avec cette idée. Notre plaisir à la perception d'une œuvre d'art ne part pas de nulle part, part effectivement d'exposition très précoce. Alors ça commence effectivement pour la musique dans le ventre de notre maman, mais on est éduqué, effectivement, on a un monde culturel qui nous éduque à la musique et à l'art.
Oui, mais les plaisirs sont de toute nature. Il y a des plaisirs immédiats, des plaisirs plus intellectuels. Il n'y en a pas un qui soit supérieur à un autre.
Complètement. Et c'est tout l'intérêt, en fin de compte, de voir, effectivement, quand on va à un concert de musique, quelle que soit d'ailleurs l'esthétique de cette musique, on peut dire qu'il y a plusieurs manières d'y prendre du plaisir. Il y a un plaisir qu'on peut qualifier d'assez physique et sensoriel, immédiat, donc qui est lié même directement donc à la perception corporelle donc du son. Et on sait bien que dans les esthétiques modernes de la musique amplifiée, le fait que le son soit fort et qu'on ressente physiquement le son est quelque chose qui est recherché d'un point de vue du plaisir. Et puis après, il y a le plaisir qu'on a en écoutant quelque chose qui est connu, donc qui fait référence à notre mémoire. Et il y a le plaisir qu'on a en construisant aussi, en fin de compte, des attentes sur une musique qu'on ne connaît pas forcément. On peut aller du plaisir assez basique, hein, plaisir sensoriel, corporel, immédiat, à un plaisir plus ou moins élaboré, intellectuel, jusqu'à celui du musicologue ou de l'expert qui dit « Ah oui, ça c'est vachement bien pensé, ça c'est vachement bien fait » et qui va avoir un plaisir intellectuel. Et le frisson musical, en définitive, il peut tout à fait émerger de toutes ces formes de plaisir. Et on peut avoir tout ça en même temps à l'écoute d'un concert.
Tout à fait. Alors on va voir ce que les auditeurs éprouvent, ressentent comme plaisir à l'écoute de votre choix suivant.
Vous avez déjà entendu ça, je suis sûr.
Ça me rappelle des souvenirs, Hervé Platel, cette musique de Wally Badaron, de Dashtine Angels. Qu'est-ce que c'est ? C'était un générique ?
Alors, en fait, Walid Badarou l'a composé dans le cadre d'un album donc qu'il a réalisé en 1989 et qu'il a composé pour illustrer, en fin de compte, différentes montagnes. Hein. Donc, l'album s'appelle Words of a Mountain, donc les mots liés à une montagne. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il a voulu démontrer, donc lui est un précurseur de l'utilisation des synthétiseurs, que contrairement à l'idée qu'on en a, un synthétiseur, c'est pas tant, en fin de compte, le son que ça produit que la manière dont on l'utilise. Comme n'importe quel instrument, je dirais, de lutherie d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'émotion qui émerge en fin de compte de ces sons synthétiques, eh bien, peut être complètement réelle. Ce sont des instruments qui ne sont pas forcément froids. Hein, il y a cette idée que la musique synthétique est forcément froide et elle n'est pas forcément froide. Ça dépend comment sont utilisés ces sons. L'essentiel de sa démarche est de montrer en quoi, effectivement, les nouvelles technologies permettent de créer des œuvres qui sont aussi des œuvres effectivement émotionnelles et chaleureuses.
Alors là déjà, Hervé Platen, on est dans le, comment dire, la conférence suivante, celle qui aura lieu je crois au mois de septembre et qui est « Musique du futur ». C'est-à-dire qu'en fait, cette nouvelle technologie va en effet induire certainement un autre mode de rapport à la fois sensoriel, créatif, à la musique.
Alors ça, c'est pas très nouveau, hein, parce que l'utilisation des techniques, donc
oui, ça fait longtemps que ça synthétique, ça dure. Depuis la clarinette chez Mozart, et même donc, bien avant. Oui.
Voilà, exactement. Pour en revenir à Boulez, qu'on évoquait tout à l'heure, qui a créé l'IRCAM, hein, ce centre de recherche sur la musique, disait qu'en définitive, il était un peu déçu d'un des aspects du projet de l'IRCAM, qui était qu'il aurait voulu que les musiciens soient dans une démarche plus comme les chercheurs, en définitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, il aurait aimé que les musiciens se contentent pas simplement d'utiliser la lutherie traditionnelle et les sons ou l'harmonie telle qu'on a l'habitude de l'utiliser, mais qu'ils essayent d'explorer de nouveaux territoires, mais aussi de nouveaux territoires sonores. C'est vrai que assez peu souvent dans l'écriture contemporaine, hormis effectivement les esthétiques modernes par essence effectivement et amplifiées, on a cette recherche dans la musique classique d'aller chercher de nouveaux territoires sonores, comme si les choses étaient figées dans l'histoire de la musique. Or l'histoire de la musique nous rappelle que quand on est passé du clavecin au piano, etc., l'évolution donc de la lutherie, c'est quelque chose où, en fin de compte, la technologie a joué un grand rôle dans l'expression de nouvelles formes de la musique. Alors ça, c'est un aspect. Et puis, ce qui est tout à fait nouveau, ce sont effectivement les technologies numériques et le web, donc Internet, etc., le streaming, et comment, en fin de compte, tous ces aspects de nouvelles technologies vont changer, bien sûr, notre consommation de la musique, mais aussi la manière dont on va la composer, la manière
dont on va l'écouter,
dont on va en fait bien sûr la consommer, mais aussi dont on va l'enseigner cette musique, et comment on pourrait utiliser cette nouvelle technologie musicale aussi dans le contexte, pas seulement de l'éducation, mais aussi du soin.
Très bien, mais écoutez, on va finir avec peut-être une musique qui vous fait plaisir à vous, c'est David Bowie.
Thank you.
Hervé Platel, votre dernier choix, David Bowie, assez surprenant, j'imagine, pour nos auditeurs qui s'attendaient à entendre la voix de notre cher disparu.
Exprès, hein, pour brouiller un peu les pistes, puisqu'on rebondit sur l'émotion et la créativité. Bon, David Bowie, on ne va pas revenir sur effectivement sa personnalité et sa grande créativité. Et on voit bien dans cet extrait qu'il a exploré des territoires tout à fait divers. Et c'est vraiment la preuve d'un génie créatif. Et malheureusement, on en a eu de trop nombreux qui sont partis en ce début d'année.
Ça, c'est bien vrai. En tout cas, on peut aller donc vous retrouver lors de ces conférences qui ont lieu à la Maison de la Radio, qui sont ouvertes publique et payante. C'est donc la prochaine, c'est le 4 juin, ici à la Maison de la Radio. Merci Hervé Platel.
Merci.
Cet extrait d'une pièce du compositeur Yann Maresch pour clarinette et 14 instruments, Eclipse, pour vous annoncer le concert qui se déroulera samedi 4 juin à la Maison de la Radio dans le cadre du festival Manifest, le festival de l'IRCAM dont Radio France est partenaire. Le harpiste Nicolas Thuillet y créera justement une pièce de Yann Maresch, un concerto pour harpe. Il sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France que dirigera Julien Leroy. Bonjour Vinciane Lemonnier.
Bonjour Dominique.
Alors, vous le savez peut-être, l'Orchestre National de France a accueilli pour la deuxième année des amateurs tout au long de l'année pour se préparer à un concert qui aura lieu demain après-midi à l'auditorium de la Maison de la Radio. C'est le projet Viva l'Orchestra qui arrive un peu au terme de son aventure. Et vous, Vinciane, vous étiez en début d'année avec les organisateurs de cet orchestre qui sélectionnait les candidats, on s'en souvient peut-être. Et depuis, une dizaine de répétitions ont eu lieu.
Oui, j'ai donc rencontré ces amateurs à l'heure des derniers réglages, des amateurs que j'ai sentis très enthousiastes, et vous allez l'entendre. Ce qui est réjouissant, c'est qu'ils viennent de toute la France et ont des profils et des âges très variés. Ils sont au total 123, ce qui est sacrément conséquent, dont 30 jeunes qui ont entre 9 et 18 ans. Et ils seront rejoints lors du concert final par 30 musiciens de l'Orchestre National de France. Mardi dernier, ils étaient donc au studio 104 de la Maison de la Radio et faisaient connaissance avec leur chef Christophe Mangou.
Donc bonjour à tous, je suis ravi de commencer cette semaine avec vous. Je vais vous dire dans quel ordre nous allons répéter aujourd'hui, pour que vous ayez une idée. On va commencer par le Gershwin, un américain à Paris. Ensuite Stravinsky, le tango. Ensuite le John Cage, Story. Ensuite on fait la valse de Barber, le Dvorak, ensuite on fait le Copland et Psychose, et nous finirons avec John Williams et la Dalgio de Barber.
Là on se demandait parce que c'est quand même très très long, et après on est... Ce truc-là c'est en tirant.
Alors vous Olivier, vous êtes avec votre harpe et vous venez de Dijon, spécialement pour la répétition.
Ben oui, je suis un passionné d'orchestre et je fais des kilomètres pour faire de l'orchestre, voilà.
Et dans la vraie vie, vous êtes anesthésiste.
Je fais surtout de la réanimation, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet Viva l'Orchestra avec les musiciens de l'Orchestre National de France ?
C'est une nouvelle expérience orchestrale avec des gens qu'on ne connaît pas, d'autres musiciens qu'on ne connaît pas, un chef qu'on ne connaît pas, un lieu prestigieux. Tous les ingrédients sont réunis.
Et vous, vous avez été assidu, là, pendant toutes ces répétitions ?
J'en ai manqué une seule.
Pas mal, pour des allers-retours Dijon-Paris.
Je suis venu quelquefois pour jouer trois notes. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, être harpiste à l'orchestre, c'est savoir compter, savoir patienter, jouer quelquefois, mais attendre beaucoup. C'est le métier, c'est ça.
Et vous étiez déjà venu ici à la Maison de la Radio avant ce projet ?
Jamais, c'est la première fois. Mais alors, c'est magique, hein. C'est magique.
Bon, bah alors, bonne répétition.
Merci beaucoup.
Bien. Alors ce début pour moi surtout, hein, attention, on est dans, c'est écrit grazioso, on est dans quelque chose de cool, on se balade, surtout pas trop vite et surtout sans presser, ok, pas trop lourd, très articulé s'il vous plaît. Refaisons, s'il vous plaît.
Edouard, vous êtes le doyen de l'orchestre.
Oui.
Vous avez 86 ans ?
87 au mois d'août.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cet orchestre des amateurs de Radio France ?
J'avais envie de travailler mon violon, bien sûr. Et puis c'était une occasion de travailler avec un grand orchestre quand même, parce que ça ne m'est pas arrivé. Jusque-là, j'ai travaillé beaucoup en province avec un orchestre très réduit. Tandis que là, c'était un orchestre formidable, même si ce sont des amateurs. Voilà. Puis j'ai 87 ans, j'avais envie de prendre un peu de bon temps aussi, il faut le dire, hein. Un peu de sport.
Et alors comment est-ce que ça s'est passé, ces répétitions, depuis le début de l'année ici à Radio France ?
Ah, très bien. La première répétition, bon, bah, j'étais dans mes petits souliers, bien sûr, parce que je me demandais où j'allais atterrir. Puis finalement, c'était tellement accueillant. Et puis j'avais travaillé, ça fait que je me suis installé assez vite, quoi, quand même. Ouais.
Alors là, c'est la première fois que vous voyez le chef ?
Ah oui. Alors, j'avoue que j'ai été étonné, d'abord par le tempo qu'il prenait, qui est bien différent de ce qu'on avait travaillé. J'ai peut-être des neurones qui faiblissent, alors il a fallu que je m'installe. Mais ça y est, c'est bon, ça marche, ça va marcher. Moi, j'ai beaucoup travaillé chez moi. Je travaille encore, hein, parce qu'il y a encore des petites choses à voir. J'ai fait des petites blagues, il faut que je les corrige.
Et alors, le concert, bientôt, vous vous sentez prêt ?
Oui, je le vois venir avec plaisir, avec grand plaisir même.
Et dans la salle, lors du concert, est-ce qu'il y aura des gens de votre famille ?
Non, personne.
Donc vous jouez pour vous ?
Oui, pour moi. C'est une expérience.
Sommelière, dans la vraie vie, on va dire, dans un grand palace parisien. Et puis là, vous vous trouvez dans l'orchestre Viva l'Orchestra.
Oui, j'ai la chance de faire partie de ce magnifique projet pour la deuxième année. J'en suis ravie et extrêmement fière. Cela nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais croisées dans notre quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, de très belles personnalités, touchantes, avec une sensibilité musicale commune. Quoi de rêver de mieux pour se réunir et puis pour faire de la musique tous ensemble. Les gens arrivent avec le sourire, l'envie de partager, le plaisir d'être là, on le voit sur leur visage. Dès le matin, on a tous des grosses semaines relativement chargées. Et lorsqu'on se retrouve durant les répétitions, ben voilà, il n'y a aucune lassitude, il y a une réelle envie, il y a une énergie qui est extrêmement galvanisante et puis ben, qui vous donne aussi l'énergie pour reprendre le cours de la vie normale le lendemain des répétitions.
Vous, qu'est-ce que ça vous apporte, la musique, dans votre vie ?
Un équilibre, un réconfort. Je ne vais pas dire que c'est une drogue, mais en tout cas, c'est ce qui me permet voilà, de pouvoir être sereine au quotidien. Oui, c'est mon équilibre de vie, absolument.
Alors là, bientôt, il va y avoir le concert, oui. Aux côtés de certains musiciens de l'Orchestre National de France, avec
Exactement.
Le chef en face.
Ouais.
Est-ce que du coup, ça ajoute quelque chose d'être comme ça au contact avec des professionnels ?
C'est une pression extraordinaire. Moi, j'ai un trac fou. Je sais que la notion de trac, on la vit peu ou pas en tant qu'amateur, parce qu'on fait de l'orchestre, ou en tout cas à mon niveau, voilà, je la subis et je ne la vis pas au quotidien. En revanche, là, de fait de savoir qu'on a un voisin de pupitre qui est un professionnel de l'Orchestre National de France fait que vous avez les mains qui tremblent, qui sont moites et vous ressentez exactement ce que c'est que le trac et il faut réussir à canaliser ça. Donc c'est un travail sur soi-même, on prend du recul et puis surtout se dire que les professionnels qui sont là partagent ce projet et nous accompagnent et ne sont pas dans le jugement. Donc il faut juste intégrer ça et à partir de ce moment-là, on est libéré et on prend un plaisir maximum.
Oui, cours, tous, s'il vous plaît. Et l'accent, s'il vous plaît, c'est vraiment ta-ti. Et c'est pas ta-ti. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'attaque de la note et après on disparaît. Un, deux, trois. Beaucoup mieux.
Alors Christophe Mangou, c'est la première fois là que vous aviez l'Orchestre Amateur de Radio France cette année entre les mains. Comment est-ce que vous le sentez ?
Déjà aujourd'hui, je sens qu'il y a des bases, tout est là au niveau des notes, etc. Bon, il y a des petites choses qu'il faudra jouer un petit peu plus vite. Évidemment, il y a beaucoup de travail, mais il y a une belle base pour faire, je pense, un beau concert.
Merci. pour le Stravinsky, on va s'arrêter là. Très bien. Juste une chose, c'est que ça va avec ce que je viens de dire. Dans ce tango, il ne faut surtout pas accélérer, il ne faut surtout pas presser. Et c'est avant tout le boulot des basses, violoncelle, contrebasse, basson, etc. Dès que vous avez les yop, pam, pam, quel que soit ce qui se passe au-dessus, il faut retenir. On verra ça demain.
Et c'est un programme qui est assez exigeant quand même pour des amateurs. Certains musiciens ici, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas mis les doigts sur leurs instruments.
Oui, absolument. Et je repense aux années précédentes, d'ailleurs, que le Viva l'Orchestra que j'avais dirigé déjà l'année dernière, ça a toujours été des programmes exigeants. Et c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des amateurs qu'il faut faire simple. Non, non, il faut leur apporter des musiques qui fassent envie, qui soient variées, mais également qui leur demandent du travail. C'est passionnant.
Alors ici, c'est un orchestre amateur qui est assez intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des très petits, 6 ans, le doyen a 86 ans, donc déjà au niveau des pupitres, il y en a certains que vous ne voyez pas. Oui. Est-ce que ça amène justement une direction aussi un peu particulière ?
Déjà, moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire des projets comme ça et de la musique à ce niveau-là, avec effectivement aussi bien des enfants de 6-7 ans, des tout petits bouts de choux que des personnes beaucoup plus âgées. Donc ça, c'est vraiment un grand bonheur. Après, une des plus grandes qualités d'un chef d'orchestre, c'est de s'adapter. Alors évidemment, le fait que ce soit des amateurs et en plus le fait qu'ils soient très nombreux, il y a besoin du fait que je donne plus d'énergie que d'habitude quand même. C'est-à-dire qu'au niveau du bras, ça travaille plus que d'habitude. Mmh. Et de l'énergie en général, je suis obligé de donner plus. C'est normal, puisque un professionnel, il reçoit un tout petit peu d'énergie de la part du chef. Il comprend tout de suite, il sait tout de suite le transcrire par rapport à sa technique d'instrument et par rapport à ce qu'il est en train de jouer. Un musicien amateur, c'est moins le cas, donc il faut que le chef donne plus d'une certaine manière. Il y a vraiment tout un métier à avoir qu'il est important, en tout cas pour moi, de faire passer même aux plus jeunes.
Voici une troupe de frères et sœurs, c'est ça ?
Ouais.
Vous appelez comment ?
Héloïse, j'ai 21 ans.
Moi, je m'appelle Ninon et j'ai 9 ans et demi.
Et moi, Victor, et j'ai presque 11 ans.
Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de venir dans cet orchestre ?
Moi, c'est le fait de jouer avec mon petit frère et ma petite sœur. Ça développe le côté fraternel.
Moi, c'est parce que j'aime bien être dans un orchestre.
Qu'est-ce que tu joues comme instrument ?
Moi, de l'alto.
Et toi, alors ?
J'ai bien aimé les répétitions, c'est amusant, c'est sympa les morceaux qu'on fait.
Au début, je me sentais pas très bien, enfin pas très à l'aise.
Tu te sens stressée parfois avec tous ces adultes autour de toi dans l'orchestre ?
Quand même, parce que parfois je me trompe et j'ai pas trop envie qu'on m'entende.
Donc tu joues pas trop fort ?
Oui, voilà. Et après, au bout de la troisième répétition, ça allait, j'aimais bien.
Tu t'es détendue ?
Oui.
Alors moi, c'est le fait d'avoir les musiciens de l'orchestre qui nous coachent, qui sont là au partiel. C'est l'expérience des musiciens, des vrais musiciens qui participent au projet. Jouer avec tout le monde, c'est ce que j'aime le plus, quoi.
Alors comment est-ce que vous le trouvez, le chef d'orchestre ?
Il est plutôt marrant et j'aime bien, il a toujours le sourire.
Ce que je préfère chez les chefs d'orchestre, c'est les exigences qui soient tellement poussées vers la musique, tellement carrées.
Alors Chloé, on vous connaît à Fabrication Maison parce que vous étiez reporter chez nous. Et là maintenant, vous êtes premier violon de l'orchestre amateur de Radio France. Sacrée place quand même.
Il se trouve que je suis assise là, mais ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est surtout que je fais du violon dans cet orchestre. Et c'est ça qui est important pour moi, surtout.
Alors pourquoi ?
Parce que ça fait des années et des années et des années que je ne fais plus de violon et que je me dis qu'il faut que j'en refasse et qu'il faut que j'en refasse de l'orchestre. Et là, voilà, c'était non seulement refaire de l'orchestre, en plus ici à Radio France, avec tout ce que ça peut représenter déjà de conditions excellentes, bien évidemment, d'encadrement excellent et tout ça. C'est un peu comme si je retrouvais une petite partie de moi qui était endormie dans ma boîte de violon depuis 10 ans. Voilà.
Alors du coup, qu'est-ce que ça fait de retrouver des sensations aussi de musique, du toucher? J'imagine que c'est aussi un peu dur de remettre le corps comme ça aux répétitions aussi intenses finalement.
Ouais, je me suis remise vraiment au violon pour ça. Et du coup, j'ai vraiment repris presque comme si je redémarrais, de faire des cordes à vide, de poser un doigt, puis deux doigts, puis trois doigts, puis quatre doigts. C'est revenu petit à petit, surtout avec l'envie, puis surtout avec en se disant que là, de toute façon, on est là pour se faire plaisir et que si on met le doigt à côté, et on le met tous à côté par moment, régulièrement, mais bien évidemment qu'on essaye de faire au mieux, mais on est là avant tout pour se faire plaisir. Et,
Mais ça réactive des réflexes anciens, en fait.
Ouais, finalement. Exactement. C'est assez marrant.
Bonne nuit. À demain. À demain.
C'était donc la deuxième saison de Viva l'Orchestra, l'orchestre des grands amateurs de Radio France. Le concert de ces amateurs aux côtés des musiciens de l'Orchestre National de France a lieu demain à 16h à l'Auditorium de Radio France, sous la direction de Christophe Mangou.
Et avec un programme assez sévère, ça demande pas mal de travail, Samuel Barber, Dvorak, Stravinsky, John Cage, et puis de la musique de film avec Bernard Herrmann, John Williams, et puis Aaron Copland. Un beau programme, assez difficile à jouer, mais je pense que ce sera super. Merci Vinciane.
À bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique. Daniele Gatti dirige l'Orchestre National dans cet extrait de Falstaff de Verdi, le Tutti Final, Tutto nel mondo e burla. Le monde entier est une bouffonnerie avec notamment Anthony Michaels Moore, Raoul Jiménez, Patricio Sodelli, Anna Caterina Antonacci, Marie-Nicole Lemieux.
Marie Fauchet, vous dédiez votre chronique au maestro Daniele Gatti qui quittera ses fonctions à la tête de l'Orchestre National de France à la fin de la saison pour aller au concert Gebau d'Amsterdam quand même.
Eh bah oui, on peut le dire. Je suis allée à la rencontre de quelques musiciens de l'Orchestre National pour qu'ils me parlent de lui. Et je dois dire que j'étais assez épatée par la justesse de leur regard, leur mesure aussi. Ils sont admiratifs et ils savent pourquoi. D'abord, ils perçoivent chez lui la fulgurance de sa trajectoire. Daniele Gatti décide de diriger à 18 ans. Il monte un petit orchestre de chambre. Il a un objectif, diriger un jour l'orchestre de Vienne ou celui de la Scala. 20 ans plus tard, à peine, il est un chef très reconnu. Et aujourd'hui, c'est même les 4 ou 5 plus grandes phalanges internationales qu'il dirige le plus souvent, c'est-à-dire Vienne, Berlin, le Met de New York et bien sûr donc le Concertgebouw à la tête duquel il vient d'être nommé. Mais surtout, ce qui semble forcer l'admiration des musiciens, c'est le peu de compromissions qu'il fait. Jamais de concessions artistiques. Il pose une oreille singulière sur chaque œuvre. Il a une conception des œuvres qui ne se discute pas. Et puis, Daniele Gatti n'est pas un mondain. Il n'est pas au pied des journalistes. Il a une forme d'indépendance unique par rapport au système. Il invente son univers à mesure qu'il se découvre des intérêts, des goûts. Il dispose d'un appétit hors norme. Par exemple, quand il est arrivé en France, non seulement il a souhaité apprendre la langue aussitôt, ce qui n'est pas souvent le cas, la plupart du temps les chefs parlent en anglais à leurs musiciens, mais en plus, il s'est passionné littéralement pour la Révolution française. À ce sujet, il a tout lu, ou presque.
Un extrait d'image de Claude Debussy, le matin d'un jour de fête, enregistré par l'Orchestre National de France, dirigé bien sûr par Daniele Gatti.
Je parlais d'un appétit hors norme. Daniele Gatti vient d'achever les représentations de Tristan, de Wagner, au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre National. Pour préparer cet opéra, il s'est littéralement plongé dans Schopenhauer. Schopenhauer qui a été l'une des premières inspirations de Wagner pour cet opéra. Et là encore, il a tout lu. Et on retrouve cette puissance de travail avec l'orchestre et dans son approche de la musique. D'abord, il connaît absolument tout ce qu'il dirige par cœur, c'est-à-dire toute la partition et même, je devrais dire, toutes les partitions de chacun des musiciens de l'orchestre. Et puis à cela, il faut ajouter une immense maîtrise technique. Chacun de ses gestes fait partie d'un mouvement tout entier qui a été pensé. Et cette maîtrise-là est très impressionnante. Peut-être que tout cela peut être associé à son goût pour l'harmonie, pour le cœur des partitions, comme un moteur de voiture. D'ailleurs, on connaît sa passion pour les voitures. Daniele Gatti, c'est un chef qui aime à penser l'harmonie davantage que la mélodie. Il s'attache souvent à rassembler un enchaînement d'accords dispersés entre plusieurs pupitres, d'où peut-être sa fascination pour le répertoire allemand et autrichien. Avec l'Orchestre National, il aura réalisé les intégrales de Beethoven, Schumann, Strauss et Mahler.
Oh,
Marie-Nicole Lemieux chantait cet extrait du chant de la terre, Der Abschied, l'adieu, de Gustave Mahler avec l'Orchestre National de France, dirigé par Daniel Egatti, bien sûr, et c'était le 27 octobre 2011 au Théâtre du Châtelet.
Deux concerts d'adieu, concerts hommage à Daniel Egatti auront lieu les jeudis 2 et 9 juin à l'Auditorium de Radio France. Il dirigera l'Orchestre National dans Bruckner, Honegger et Prokofiev. Et puis, on peut également signaler la journée spéciale que lui dédie France Musique le jeudi 9 juin.
Et puis, il y a aussi des places à gagner pour les auditeurs de Fabrication Maison pour ce concert du 9 juin. Donc, Daniel Egatti à la tête de l'Orchestre National de France, ici à la Maison de la Radio. Peut-être pas pour la dernière fois, mais en tout cas pour la dernière fois en tant que directeur musical de l'Orchestre National de France. Les auditeurs le savent, pour gagner ces places, il leur suffit de rallier le site de Fabrication Maison sur le site de francemusique.fr.
Et puis, Dominique, il sera aussi votre invité, je crois, la semaine prochaine, non ?
Exactement. À bientôt, Marie.
À bientôt.
Agenda. Ce soir à 20h, l'INA GRM vous invite ici, au studio 104 de la Maison de la Radio, à un concert de Live Electronics qui présentera des œuvres de Gilles Racco, deux commandes, la première intitulée Versus et la deuxième Chronomorphose, puis de Daniel Teruggi et Andrea Liberovici, Resonant Cities pour violoncelle avec Jeff Ziegler. C'est ce soir à 20h. Mercredi 1er juin à 14h30, la maîtrise de Radio France fera une répétition publique et présentera le programme qu'elle chantera lors du Festival de Radio France et Montpellier. L'opéra Marco Polo et la princesse de Chine d'Isabelle Aboulker. Sophie Janin sera à la direction.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Konnichiwa, Dominique Osan.
Mais qu'est-ce qu'il y arrive ? Jean-Yves, que se passe-t-il ?
Eh bien, nous allons au Japon.
C'est vrai, ce matin,
oui, ce matin,
là comme
ça. Comme ça, tac, d'un coup d'éclair magique, enfin un éclair en galette, vous savez, noir avec une étiquette au centre.
Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire.
Et nous allons nous intéresser au Japon, ce que diffusait la radio japonaise dans les années qui précèdent l'immédiate Seconde Guerre mondiale. Car vous savez, il y avait un important conflit qui opposait le Japon à la Chine.
Ça, je m'en souviens, je l'ai appris à l'école.
Qui a laissé des traces dramatiques dans l'histoire, mais qui a laissé aussi quelques traces phonographiques, puisque le Japon, afin de séduire les Chinois, seulement militairement, hélas, mais musicalement aussi, leur proposait toutes sortes de chansons, de romances qui étaient destinées à prouver que le peuple japonais pouvait s'implanter en Chine.
D'accord.
Alors, je vous propose d'écouter une
nuit
des
de
héroïnes.
Chine.
Non, ce n'est pas Nuit de Chine, Nuit Kaline, c'est Shina no Yuru. Shina no Yuru qui veut dire la nuit en Chine. Donc là, on est dans le vif du sujet. Chantée par Amako Watanabe, qui est une grande chanteuse japonaise décédée à la fin des années 90. Donc elle a une carrière extrêmement longue et qui a été une sorte d'héroïne de la chanson. Sa carrière a connu un léger déclin après la guerre. Mais elle a été même inquiétée par moments parce qu'on trouvait que sa manière d'interpréter les chansons et parfois ses textes était un petit peu trop sensuelle. Je vous la jugeais.
comme c'est joli, on voit les pruniers fleurir.
Mais non, c'est la nuit.
Ah pardon, c'est vrai, on ne les voit pas alors. Non mais là, il y a un petit côté hawaïen, je trouve.
Alors, c'est peut-être l'emprunt à la tradition chinoise qui donne une espèce de mélange improbable.
Improbable comme d'orchestration.
Et qui donne une idée hawaïenne, si vous voulez. Je tiens à préciser que le parolier qui s'appelle Yazo Saijo était ami de Paul Valéry. Il avait fait ses études en France et il avait conservé des relations avec Paul Valéry, ce qui est assez étonnant.
Non, c'est une période aussi où on s'intéresse à l'Asie.
Oui, et c'est une période où l'Asie s'intéresse à l'Occident aussi.
Oui.
C'est
de façon ça suit de peu pas toujours amicale d'ailleurs.
Tout cela, fort heureusement, a bien changé.
Disque Columbia, Tokyo 1938.
Oui. Maintenant que nous avons été séduits lors d'une longue nuit chinoise, je propose à la mariée de se regarder dans son miroir, c'est-à-dire Nizuma Kagami.
Merveilleux, il est polyglotte cet homme.
Oui, oui, c'en est même pénible. qui est un duo chanté par monsieur Nobuko Kirishima et mademoiselle Akiko Futaba.
Mais bien sûr.
C'est enregistré en 1940 et alors là, c'est purement une romance d'amour. Et cette fois, nous sommes plus dans le thème d'un Japon qui s'ouvre vers l'Occident. Nous avons une Japon qui s'ouvre vers la Chine précédemment, et là nous restons un petit peu plus dans une tradition qui nous emmène vers le foxtrot, j'ai peut-être un mot un peu osé.
Allez, je me lance. Nizuma Kagami, le miroir d'une jeune mariée, Masao Koga, Sonosuko Sato.
Bravo.
Merci. Non, alors ça, je ne sais pas qui c'était d'ailleurs.
Eh bien, c'était deux, vous venez de le dire.
Oui, mais c'était des compositeurs, j'imagine.
Oui, oui, c'est des compositeurs. Les chanteurs, c'est Nobuko Kirishima et Akiko Futaba. C'est une chanson très traditionnelle, c'est une romance, c'est une bleuette un petit peu extrêmement bien faite avec l'emploi de ces instruments occidentaux.
Et oui, parce que c'est un orchestre colombien, il faut le dire, pour l'enregistrement qu'on vient d'entendre, mais celui qui précède également.
Oui, oui, on ne connaît pas les noms des ensembles.
Alors donc, ça a été enregistré à Tokyo en 1940, cette
fois-ci. 1940. Et la même année, ou presque, parce que je n'ai pas réussi à trouver l'année exacte, nous allons entendre Yushima no Shiraume, c'est-à-dire la romance du prunier blanc de Yushima.
Je vous le disais qu'il y avait des pruniers qui fleurissaient.
Voilà, ils arrivent enfin. Et c'est une chanson donc qui date de cette période troublée et qui sera reprise en 1955 et qui deviendra la bande sonore d'un film noir et blanc japonais encore, mais qui connaîtra un énorme succès qui justement reviendra sur l'ancrage traditionnel du Japon après les grands bouleversements. Et je crois que la chanteuse qui s'appelle Ryoko Fujiwara a échappé de peu au bombardement de Hiroshima, car son train passait sous un tunnel au moment où la bombe est tombée. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Et elle a vécu jusqu'en 2011. Donc c'est presque encore une contemporaine. Donc voilà une petite chanson tout à fait charmante et tout à fait peut-être ce qu'on attend d'un Japon à la sauce occidentale quand même, il faut le reconnaître.
De l'accordéon mêlé au son du koto est un mariage heureux entre Orient et Occident.
Je crois qu'on peut dire que ça.
Alors rappelons peut-être que c'est la romance du prunier blanc de Yushima, chanté par Kazuo Suematsu et Ryoko Fujiwara.
Avec le Japan Victor Orchestra.
Ah ben oui. Et c'est un disque Victor enregistré à Tokyo en 1940.
Voilà. Il me faut remercier grandement mon ami pianiste Aya Okuyama qui a enregistré un magnifique disque qui s'appelle Un hiver à Majorque, puisque c'est grâce à elle que l'on sait ce qu'il est décrit sur ses étiquettes.
Parce que les étiquettes sont en japonais.
Les étiquettes sont en japonais et sont même en caractère d'avant-guerre, c'est-à-dire en kanji, ce qui n'est pas si facile que ça à lire.
Parce que le japonais moderne, vous le lisez couramment.
Bah évidemment, comme Jacques le sait.
À la semaine prochaine, Jean-Yves.
Sans doute.
Et voici à présent notre rubrique Parlez-moi de musique, dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Jean-Gilles Grandet. J'avais la garde de mon petit-fils, Émile, 8 mois. C'était l'heure de sa sieste et il dormait dans mon lit, bien calé, pensais-je, par des coussins. Pendant qu'à l'étage au-dessous, j'écoutais la 9e symphonie de Schubert, celle qu'on dit la grande. Soudain, un coup de timbale inconnu de la partition a retenti au-dessus de ma tête, aussitôt suivi d'une note suraiguë, longuement tenue, puis reprise après un staccato pathétique. Je me suis précipitée à l'étage pour relever le petit bonhomme tombé du lit. Je l'ai pris dans mes bras, toujours hurlant, et j'ai descendu l'escalier tout en murmurant je ne sais quoi pour consoler mon fardeau douloureux dont la joue s'était posée sur mon épaule. J'étais très inquiet. Avait-il seulement eu peur? S'était-il fait mal malgré le tapis? Est-ce qu'il ne s'était pas cassé quelque chose? Un seul point rassurant, ses hurlements prouvaient qu'il n'avait pas perdu connaissance. Je me demandais comment je pourrais obtenir la consultation immédiate d'un médecin lorsque nous avons traversé la pièce où l'appareil que je n'avais pas fait taire, indifférent au drame qui se jouait près de lui, continuait à diffuser sa symphonie. Les hurlements ont cessé d'un coup. La petite tête s'est relevée de mon épaule, a cherché des yeux d'où venait la musique. Émile n'avait plus mal, il n'avait plus peur. Il était sous le charme de Schubert. Je me suis promis alors qu'il en aurait un enregistrement pour son premier anniversaire. illustrer le souvenir musical de Jean-Gilles Grandet, nous avons écouté la version de Claudio Abbado à la tête de l'orchestre Mozart du dernier mouvement de la 9e symphonie de Franz Schubert. Une version qui plairait peut-être au jeune Émile pour son anniversaire. Cette rubrique se nourrit depuis un moment de vos souvenirs et je vous remercie beaucoup pour toutes ces histoires, ces moments partagés avec vous. Question de cœur avec Sophie Jeannin.
Just look at me. I'm as helpless. I feel like I'm clinging to clouds. I can't understand why I get misty. Holding your hand, walk my way. And a thousand lanes begin to play. Or is it the sound of your hello, dear? That music I hear. Ooh, I get misty whenever you're near. And say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Can I help it? How hopelessly I'm lost.
Bonjour Sophie Jeannin. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde un répertoire, puisqu'on est sur le sujet des répertoires, un répertoire qui n'est peut-être pas tout à fait celui du chœur ni de la maîtrise de Radio France, mais qui représente un répertoire choral absolument énorme, c'est celui du gospel.
Oh oui, le gospel, c'est
je
pas...
Je sais que vous aimez bien.
Moi, j'adore ça. Et vous savez, je le chante jamais, mais...
Vous l'écoutez toujours.
Je l'écoute toujours, depuis toujours, et je pense que je l'écouterai toujours. C'est-à-dire que c'est rare de trouver dans la musique chorale, dans ce répertoire, un genre encore qui exprime l'exaltation. Vous savez que dans la tradition savante, et surtout on est passé par la musique, on va dire, liturgique et religieuse chez nous, en Europe, on est souvent dans des écoles qui travaillent contre l'extase. On a l'extase d'une certaine façon, mais même, vous savez, Hildegard au XIIe siècle, il trouve voilà que sa musique est voilà trop justement en extase.
Un peu extatique, ouais.
Voilà. Et puis cela, ça devient de plus en plus important pour ces écoles de, on peut pas dire peut-être contrôler le peuple, mais en tout cas garder le calme des foules. Et on arrive dans les traditions afro-américaines où là, il y a encore le culte de l'extase et de l'exaltation en collectivité.
Proche de la transe même parfois.
Absolument, oui. Et ça vient de ces traditions-là. Toutes les religions passent par là dans ces formes différentes. Et dans le gospel, on est dans cette exaltation et cette joie, cette ferveur qui, voilà, qui nous dépasse. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un service liturgique dans une église baptiste dans le sud des États-Unis, par exemple. Quand on vient de l'extérieur de ça, ça peut même être un peu effrayant. Parce que quand on voit... La façon dont les gens sont exultés, moi, pour ma part, je ne connais plus ça dans ma tradition. Donc, de le vivre, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et dans la musique, ben, voilà, vous entendez quand même une joie, un message. Et c'est aussi une force pour survivre. Et comme vous savez, beaucoup de ces textes-là parlent de la vie au-delà et la vie après la nôtre.
Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ces formes de gospel, Sophie Jeannin, c'est à la fois la base mélodique, etc., et la capacité à improviser. C'est-à-dire que c'est aussi, sur le plan purement technique, des moments d'écoute collective absolument insensés.
Oui, et puis c'est une esthétique. Alors maintenant, on parle gospel, et il y a bien évidemment plusieurs sous-genres là-dedans aussi. Mais c'est vrai que il y a une façon dans cette musique-là de développer une grande musicalité. Et il suffit de regarder le parcours dans le passé des plus grands chanteurs de soul, funk, R&B, etc. des années 50, 60, 70, même aux années 80. Vous regardez, la plupart d'entre eux, ils sont quand même ancrés dans cette tradition-là.
Ils ont tous commencé par chanter le gospel.
Oui.
Belle école.
Très belle école.
C'est d'abord la voix suave d'Aretha Franklin chantant Mist, puis les Edwin Hawkins Singers dans Oh Happy Day, qui illustraient cette nouvelle question de cœur avec Sophie Janin. Et c'est au cinéma que Fabrication Maison vous invite ce matin. Mercredi est sorti le film Ultimo Tango, réalisé par German Krall avec Maria Nieves et Juan Carlos Copes, dont France Musique est partenaire. Un film qui célèbre l'histoire de deux des plus grands danseurs de la légende du tango. Pour gagner des places pour Ultimo Tango, il vous suffit de nous écrire au plus vite, sans oublier de noter toutes vos coordonnées. Bon film aux gagnants. C'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité aujourd'hui de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Thibaut Nassim Ben, de Xavier Atto, José Bernays et Marie Jaworski, sans oublier Philippe Abel de France Bleu Caen. Merci à tous et à très vite.